De la dissidence au désespoir, que reste-t-il de la révolte de Tiananmen? Quel souvenir du massacre? Quelle mémoire collective? Que reste-t-il aussi de la colère et des combats de ceux qui se sont soulevés ce 4 juin 1989? Ils réclamaient davantage de démocratie, ils ont eu davantage de répression et une invitation à s'enrichir.
Pékin n'est plus ce soir qu'une capitale meurtrie et dévastée. Alors que les tirs continuaient sur la place Tiananmen, qui rassembla pendant 7 semaines les espoirs de liberté de la jeunesse chinoise, la population affolée compte ses morts et tente encore de sauver les milliers de blessés des combats de la nuit dernière. Il était un peu plus de 21h heure française hier soir quand les lampadaires qui éclairaient la place Tiananmen se sont tout à coup éteints. L'armée du gouvernement chinois venait de lancer la bataille sanglante destinée à mettre fin à la révolte des étudiants. Des étudiants qui espéraient encore une fois pouvoir fraterniser avec la troupe. Pour la première fois depuis l'instauration de la loi martiale il y a 3 semaines, l'armée a tiré dans la foule. Bilan sans doute partiel, on parle ce soir de plus d'un millier de morts.
C'est un gouvernement réactionnaire. Il a fait tirer sur le peuple. Il a tué des milliers d'étudiants devant l'université.
Longtemps apparue débonnaire, la révolte des étudiants chinois prend désormais un tour tragique, favorisant à Pékin les risques d'une véritable guerre civile.
Place Tiananmen, 4 juin 1989, c'était une archive, INA, des balles et de l'opium qui paraît aux éditions Globe. C'est le titre du recueil de témoignages des anciens de Tiananmen, rassemblés par l'écrivain et opposant Lia Yiwu, l'un des auteurs les plus lus clandestinement, exilé depuis bientôt 10 ans en Allemagne après 4 ans de prison pour un poème intitulé « Le Grand Massacre ». L'histoire d'une génération traumatisée qui a assisté comme dans un cauchemar aux transformations de la Chine et l'arrivée d'un nouvel opium qui a inondé le marché, l'argent. Bonjour Liao Yiwu. Bonjour. Et bonjour à votre voix française, Roger Wei. Bonjour. Merci. À nos côtés aussi, Marie Holzmann qui sera avec nous tout au long de cette demi-heure. Vous êtes la traductrice en français de cet ouvrage de Liao Yiwu, des balles et de l'opium. Monsieur Liao, 30 ans après, que reste-t-il pour vous de Tiananmen ?
Il y a 30 ans, les Chinois ont souhaité réaliser la démocratie dans leur propre pays. Comme on a connu 10 ans de réformes, beaucoup de pensées, idées, concepts, y compris ceux de la France, la littérature, les romans, la philosophie, ont été très lus en Chine. Les Chinois s'aspirent à la démocratie. Ils souhaitent aussi faire de la Chine un pays démocrate. Mais 30 ans après, on a complètement vu l'inverse qui arrive. On assiste à une corruption générale. Les gens de pouvoir, et eux, pourtant, ils font l'immigration aussi à l'étranger, en Occident. Ils peuvent convertir aussi au catholicisme, au christianisme. Et là, les Chinois commencent à connaître une grande désillusion. Les corrompus, les gens qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent, ils ont un nouveau culte, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Et si on fait une projection dans l'avenir et que quand la Chine devient la plus grande poubelle du monde, là, les Chinois vont suivre les gens de pouvoir politique et financier, ils vont renoncer à l'idée de faire la démocratie dans leur propre pays et de faire le flux migratoire en Occident pour profiter de la démocratie sur place. Et voilà, c'est la dictature qui pousse les Chinois à faire ce choix.
Vie et mort à Tiananmen. Dans l'avant-propos, vous écrivez « À l'aube du 4 juin 1989, le gouvernement chinois a mobilisé plus de 200 000 soldats afin d'encercler Pékin, puis d'y pénétrer. Ils ont ainsi perpétré un massacre qui a bouleversé le monde entier. Pourtant, à ce jour, nous n'avons toujours pas les chiffres exacts du nombre de victimes. Les chiffres officiels concernant le nombre de blessés approchent les 200. Les organisations internationales qui défendent les droits de l'homme ainsi que le petit peuple chinois pensent que le nombre de morts serait compris entre 2 600 et plus de 3 000 personnes. Il y a de la mémoire de ceux qui sont morts dans cette révolte, dans ce massacre. Il y a aussi la mémoire de ceux qui ont survécu. Et c'est cette mémoire-là, ces témoignages, à travers des proches ou des personnes qui y étaient, que vous avez rassemblés dans cet ouvrage des balles et de l'opium. Je vous demandais 30 ans après ce qu'il restait de Tiananmen, parce qu'en Chine, la mémoire est interdite. Ceux qui ont tenté de commémorer cette date ont fini en prison. Les principaux leaders de Tiananmen sont aujourd'hui exilés ou morts. Quel sens donnez-vous, vous, Liao Yiwu, aujourd'hui à votre combat?
Mon
combat consiste à faire savoir, faire connaître la vérité au plus grand monde. Par exemple, M. Wang Weiling, il est devenu emblématique parce qu'il est tout seul contre toute une série de chars blindés. Mais personne ne sait où en est-il, quel est son nom, où il est actuellement, comment il a survécu, etc. Donc j'ai essayé de faire des interviews pour voir que beaucoup de Chinois, ils ont été comme Wang Weiling, ils ont empêché les chars, ils ont empêché l'armée de tuer les Chinois. Il y a beaucoup de gens qui ont montré leur courage face à la violence. Donc ce n'est pas un mystère, ce n'est pas un mythe non plus. C'est comme le chiffre de victimes, que ce soit des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers, il n'y a pas un chiffre exact. Pourtant, et nous sommes en train de combattre avec les dictateurs, avec le pouvoir dictatorial. L'un consiste à révéler la vérité, l'autre a tout fait pour cacher, pour camoufler. Et la vérité finit par se faire connaître, se révéler, parce qu'il y aura des gens qui n'hésitent plus à dire. Les personnes interviewées restent un nombre restreint. Mais derrière eux, il y a des centaines de millions de gens, des Chinois, des Pékinois ou d'autres, des gens qui ont manifesté dans la rue.
Et c'est une manière de leur redonner vie à eux, à tous ceux qui se sont dressés ce jour-là dans l'ombre de cet homme, Wang Weiling, que vous venez d'évoquer, qui s'est opposé, lui, bras levé, à l'avancée d'une colonne de tanks. C'est cette image qui a fait le tour du monde. C'est aussi une manière, donc, de rendre hommage aux autres vies brisées derrière cette image qui a fait le tour des médias et du monde entier. Quand et comment, enfin, dans quelles conditions, vous êtes parvenu à réunir ces témoignages? C'était à l'époque, quand vous étiez encore en Chine, avant de partir en Allemagne?
J'ai fait l'interview une dizaine d'années après le massacre à Tiananmen, parce que je reste en contact avec Liu Xiaobo, avec ses camarades, surtout la plupart des gens qui ont vécu personnellement la place Tiananmen, même si je l'oublie, les personnes d'autres ne seraient jamais oubliées. Je connais aussi les dissidents Wang Dan, Wang Kaixi, les anciens dirigeants, leaders du mouvement étudiant. Et tout le monde focalise sur les leaders des étudiants. Mais un beau jour, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Wen Tian, et lui, il était hostile au départ à ce que je disais, à ce que je pensais, parce qu'ils m'ont dit que tu ne connais rien, tu ne connais rien du tout. Est-ce que tu sais que cette année, il y a deux personnes qui ont été condamnées à mort avec 2 ans de sursis, qui ont été libérées, parce que personne ne focalise sur eux.
Et
je pense que j'ai du mal à communiquer avec cette personne parce que j'ignorais aussi l'existence de ce genre de personnes. Et c'est la raison pour laquelle je me suis décidé à dire, à révéler au monde ceux et celles qui ont été persécutés, torturés, fusillés après le massacre. Ils ont été rejetés par la société, ils ont été oubliés par tout le monde, ou ils ont été malades à cause de la vie de prison. Certains sont devenus impuissants à cause, justement, et ils ont du mal à retrouver la société, à réconcilier avec la vie normale, et ils sont obligés, quelques-uns voisins, ils sont obligés de pratiquer la prostitution avec des prostituées pour retrouver leur puissance, retrouver leur confiance en eux-mêmes. Parce que quand ils ont été jetés en prison, ils étaient tout jeunes, ils ont même à peine 20 ans. Donc quand ils sont en face à cette question de l'impuissance, et ils ont du mal à retrouver leur confiance, ils ont difficile à retrouver leur puissance masculine, leur masculinité, hein, leur virilité. Ils ont été considérés comme des gens handicapés et complètement inutiles, mais au moment de leur séjour dans la prison, ils pensaient qu'ils ont été considérés toujours par les gens dehors des murs de prison comme des héros, alors que chez eux, ils n'ont aucune confiance en eux-mêmes. Et quand je suis venu en Occident, je pensais aussi qu'il y a des héros, il y a des gens qui sont connus, comme Wang Weiling. Alors, il y en a une masse colossale des gens derrière Wang Weiling. Alors, où sont-ils? Où se trouvent-ils? Où survivent-ils? Donc, c'est la raison pour laquelle le livre, Les balles et l'opium a fini par voir le jour. Et je pense que j'ai accompli la mission d'être l'enregistreur de ces pages historiques, des événements historiques.
Ce que vous venez de raconter là, c'est aussi ce qui vous est arrivé après 4 ans dans un camp de rééducation. Et vous avez raconté ces années dans un livre, dans l'Empire des Ténèbres. C'est un autre homme qui est ressorti de prison en 94. En vous et tout autour de vous, tout avait déjà changé dans ce laps de temps. Dans l'épilogue des balles et de l'opium, votre traductrice qui est avec nous, la sémiologue Marie Holzmann, raconte ce que ça a dû représenter aussi pour vous, se retrouver au lendemain de votre première libération dans une société radicalement différente de celle que vous aviez connue en 1989, désormais rejetée et méprisée, avec des familles disloquées, des employeurs qui ne vous reconnaissaient plus, dans un régime qui fait tout pour vous rappeler que même sortie de prison, vous êtes toujours dans une prison au mur invisible. Ça, c'est la société que vous avez retrouvée, humiliée, méprisée, enfermée en prison, et une fois sortie, sexuellement, politiquement, économiquement, inadapté.
Tout à fait. Au début, quand je suis sorti de prison, et l'état dans lequel je me trouvais, aujourd'hui, c'était terrible, même pour aujourd'hui. Parce que quand je fréquente une personne, tout le monde cherche à me fuir. Et même les amis les plus proches pour moi, ce sont des policiers, parce qu'ils viennent me surveiller régulièrement, ils me conseillent à faire du business et vendre des pantalons pour qu'ils partagent un peu aussi leur commission. Et comme je n'arrive pas à retrouver mes amis, je suis obligé de vendre des vêtements dans un bar. Un jour, il m'a provoqué et j'ai trouvé une bouteille pour lui essayer de le blesser, et il a poussé un cri, et on a vu aussi que il y a du sang qui saigne, enfin, et cet événement, j'ai téléphoné avec Liu Xiaopo et il m'a dit: mais comment est-il possible que tu fasses ce genre de choses? Parce que tu sais, si on t'arrête au nom de cet acte, tu deviens criminel de pénalité, de code pénal. Donc on va changer complètement ton parcours. Donc qu'est-ce que tu peux faire? Et je te propose, Xiaopo lui a dit, d'écrire, de rédiger tout ton parcours, toute ton histoire personnelle. Et après, je me mets à écrire pour évacuer tout les toxiques, toute la toxicité qui se trouve dans mon corps, dans mon esprit. Et je commence à écrire ma biographie, mon propre séjour dans la prison, et aussi ceux et celles qui ont été jetés en prison comme moi, pour essayer de sortir les côtés noirs, les plus noirs, qu'ils ont vécu dans leur séjour, pendant leur séjour. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. comme la, les aspects les plus noirs.
Et vous racontez avec un humour un peu sarcastique que les policiers sont presque devenus vos premiers lecteurs. Ils ont décrypté toutes vos œuvres, tous vos livres, analysé votre appareil critique, et ils ont probablement, ils vous ont plus lu que n'importe qui en Chine pour pouvoir mieux vous comprendre et vous contrôler. Recueillir donc ces dernières paroles. Aujourd'hui, il faut faire vite. Aussi, vous êtes un travailleur du souvenir, comme vous l'écrivez. Vous voyez plutôt aujourd'hui Liao Yiwu comme un gardien d'une mémoire qui s'efface. On est 30 ans après les événements, celle de cette génération sacrifiée, ou vous voyez plutôt comme un passeur pour les générations actuelles ou futures. Est-ce que d'avoir rassemblé tous ces témoignages, vous l'avez fait dans une démarche qui est plutôt tournée vers le passé ou vers l'avenir ?
Puisque j'ai rencontré des événements, j'ai connu des événements tout à fait particuliers, par exemple le Nouvel An 2001, et les personnes qui ont jeté les œufs au portrait de Mao Zedong sur la place Tiananmen, et un beau jour, il m'a téléphoné, il m'a dit que est-ce que ton livre a une version anglaise ? Je dis pas encore, mais pourquoi tu ne cherches pas à le traduire en anglais ? Parce que ce n'est pas moi qui puisse le décider. Tu sais, est-ce que tu sais la réponse ? Je suis ici, même si je suis venu aux États-Unis, l'État Indiana, je fais le travail de nettoyage. Mais si tu traduis en anglais, et les gens, ils peuvent m'aider et ils peuvent m'apporter de l'aide, venir en aide. Sinon, je sombrerai dans la solitude, dans les travaux insignifiants. Et aussi, il a aussi, il a, Monsieur Yu Tongyue, il est devenu presque fou. Donc il dit, Monsieur Liao a dit que ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'éditeur. Donc il n'a pas pensé que une semaine après, et il est mort à cause des complications dues au diabète. Il est diabète à cause. Et donc sa mort m'a beaucoup choqué. Et donc il assume en partie la responsabilité du destin de cette personne. Parce que il a envoyé une lettre à Monsieur Bernstein, qui est l'éditeur, qui est l'agent de sa publication, et donc il lui a demandé pourquoi ne pas traduire en anglais. Maintenant, il faut écrire. On lui a proposé d'écrire un roman plutôt que d'écrire des reportages. Lui, il refuse. Monsieur Liao Yiwu, il refuse parce que au lieu de traduire, donc il a cherché lui-même, Monsieur Liao Yiwu, il a cherché un ami, Cao Dawei, c'est un diplomate, un ancien diplomate, il a cherché à trouver un traducteur, et une fois la traduction faite, il a remis à l'éditeur pour que l'éditeur soit obligé d'imprimer.
Sous votre plume, ouais. On entend notamment le témoignage d'un père d'une victime du 4 juin, Wu Dingfu, qui vous raconte les circonstances de la mort de son fils, sorti enregistrer l'histoire, vous dit-il, avec son appareil photo, touché par une balle et achevé à la baïonnette. Pour cette famille, on a l'impression que le temps s'est vraiment arrêté ce 4 juin 1989. Vous avez aussi retrouvé Wu Wenjian, peintre du 4 juin, considéré comme un émeutier et condamné à 7 ans de prison. Les vrais héros, vous dit-il, sont demeurés dans les oubliettes de l'histoire. Ça, il vous le dira à propos du directeur du Laogai, le bagne où il a été envoyé, qui a osé dire la vérité contre le parti communiste, qui affirmait que la grande majorité des manifestants étaient d'anciens prisonniers, alors que c'était des citoyens ordinaires, rappelle-t-il, pointant aussi la responsabilité de l'élite du 4 juin, des intellectuels, qui, pour beaucoup, selon lui, ont fui après, n'ont pas défendu ces anonymes de la foule. Il vous pointe du doigt quand il vous dit ça. Hein. Il dit, vous, l'élite, vous, les intellectuels, vous avez le sentiment que vous avez une responsabilité, ou à tout le moins une dette, par rapport à tous ces oubliés de l'histoire.
Je ne me suis pas culpabilisé. Je pensais que les gens, je ne leur n'ont pas non plus reproché à ceux qui ont pris la fuite, qui ont choisi l'exil. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers, et je ne souhaite pas qu'ils soient jetés en prison non plus, parce qu'ils étaient jeunes. Ils étaient jeunes à l'époque. Ils ont besoin de se libérer un peu. Mais ce que je fais, c'est de garder en mémoire ce que je dois garder. Et par exemple, les pères des victimes de le père de victimes de la place Tiananmen. Et cette histoire m'a beaucoup surpris. Et à l'époque, il avait une caméra, il a pris des photos, et c'était rare à l'époque d'avoir, pour les Chinois, d'avoir une caméra. Alors que le meurtre, il a bâillonné avec, parce que bâillonné, il veut lui arracher la caméra, et le policier, le militaire, lui a bâillonné et percé le cœur, et lui, il garde toujours sa caméra, et aussi, il a pris la bâillonne. Donc, non seulement on lui a percé la poitrine, mais aussi on lui a blessé les deux mains qui essaient de tenir le couteau. Le militaire lui a donné sept coups dans son ventre et dans son cœur, dans sa poitrine. Et il n'a pas, et même avec les sept coups qu'il a subis, il regarde tout droit son meurtre. Il n'a pas encore rendu le dernier souffle. Et là, ses deux yeux, pour moi, c'était comme l'objectif d'une caméra, d'une caméra. Et donc, il a fixé l'instant, le visage de son maître. C'est une mémoire terrible, mais quand à l'écouter, et je me suis dit qu'un écrivain, il a toute responsabilité de mémoriser, de rendre cette mémoire inoubliable. Il est aussi héroïque que M. Wang Weiling, qui était devant la colonne de tank. Et à l'époque, l'esprit des Chinois, je pensais que c'était un esprit héroïque qui attire l'appréciation, le respect, l'estime. Mais 30 ans après, tout cela s'évacue. Tout cela s'évacue. Tout a changé.
Que peut la littérature pour la mémoire? Je vous propose d'écouter les mots du prix Nobel de littérature il y a 19 ans. En 2000, l'écrivain, dramaturge et metteur en scène d'origine chinoise, Gao Qingjian.
La littérature peut changer le monde. Non, je ne crois pas. Ça, c'est parce que il y a un danger si on dit ça. Parce que ça devrait être une littérature militante et engagée. Moi, je me détache de cet engagement. L'écriture, c'est l'écriture. C'est la trace humaine à part de l'histoire du pouvoir. Il y a encore une trace des individus, une voix tout à fait personnelle. Je pense que c'est l'essence de la littérature. C'est ça.
L'écriture comme une trace des individus, des hommes, des femmes, à part de l'histoire, du pouvoir. Ce n'est pas la conception que vous vous en faites, Liao Yiwu.
Parce que je suis un prisonnier politique, je suis un écrivain. Le parcours que j'ai vécu dans la prison détermine ce que j'écris. J'aimerais bien vivre comme un écrivain qui vit normalement. Mais aujourd'hui, heureusement, je suis à Berlin, dans un monde libre, de liberté. Et j'ai un public, ils souhaitent que j'écrive ce qui s'est passé dans... Alors, toujours, il se passe toujours quelque chose en Chine, avec des gens que je connais. Par exemple, M. Li Lifeng, il est poète, il a été jeté en prison aussi. Monsieur Liu Xiaopo, pendant un long moment, Liu Xiaopo était mon très bon ami. Il est avant de mourir et récemment, ils ont arrêté un pasteur, poète. Il est mon ami de Chengdu, de mon pays natal. Et donc, je pense que moi, je dois combattre pour la liberté des autres. Et là, ça me passionne. C'est une mission qui rassemble mon courage. Et voilà ma conviction intime que quand on parle de la littérature, tout le monde peut en parler. Mais je suis un écrivain professionnel. Et quand je parle de la littérature, tout le monde peut écrire à sa manière. Tout le monde peut en parler autrement. Mais un écrivain ne doit pas oublier sa mission de combattre pour la liberté des autres.
Et pour la sienne peut-être aussi, parce que parmi tous les témoignages réunis, il y a aussi votre témoignage à vous. Ceci est une auto-interview, écrivez-vous, pour tenter de démêler par la conversation les chevaux de mes souvenirs. Après Tiananmen, tout est devenu flou, tout a rouillé. À partir de là, l'État a pu de nouveau imposer son autorité par la violence. Écrire, tenter de démêler tous ces points dans votre propre mémoire, qui elle aussi doit commencer à s'effacer. Est-ce que ça a été pour vous une forme de libération, Liao Yiwu ?
Oui, en effet. Quand, dans mon livre, j'ai fait une auto-interview et pour revoir mon passé et le passé de mes parents et comment on a vécu cette période traumatisante et traumatisée. Et ce parcours me rappelle que tout ce que j'ai vécu contredit ce que Cao Xinjiang a dit sur l'utilité de la littérature. Et c'est la raison pour laquelle, à travers cette interview de moi-même, la littérature consiste à construire un monument historique pour toutes les victimes de la dictature. Et certes, le monument littéraire doit survivre au temps, mais nous pouvons faire ce que nous pouvons faire seulement, c'est un monument historique de mémoire, mais avec des mots.
Invitez quelques minutes encore l'écrivain et opposant Lia Yiwu à l'occasion de la parution en France, traduit par Marie Haussmann, de son recueil de témoignages des balles et de l'opium. C'est aux éditions Globe. France Culture, il est 13h23.
France Culture. La grande table. Olivia Jesbert.
Que reste-t-il de cette mémoire collective, de cette révolte, de ce massacre de Tiananmen ? On l'a évoqué à travers ce qui est peut-être aussi la première dimension de cet ouvrage, Liao Yiwu, des balles. Passons maintenant à l'opium, l'argent corrupteur. Comment l'enrichissement est-il devenu, à vos yeux, l'idéal de la société chinoise ? La consommation et les plaisirs immédiats, l'opium du peuple, peu importe les méthodes.
En effet, je me rappelle que les éléments qui ont influencé sur l'histoire de la Chine, il y a un des épisodes, c'est la guerre de l'opium. À l'époque, c'était des pays occidentaux qui exportaient vers la Chine de l'opium. Enfin, ce n'est pas les pays, des commerçants. Et aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à Tiananmen, après le massacre avec les balles, après la répression sanglante, Deng Xiaoping, il a changé de stratégie. Et aujourd'hui, il a fait de l'argent un nouvel opium pour qu'on oublie le pays, l'avenir, la démocratie, etc. C'est donc l'argent, le culte de l'argent devient un nouvel opium. Et en faisant des business avec des multinationaux, avec des groupes multinationaux, et les deux stratégies se rapprochent. La stratégie de Deng Xiaoping, la stratégie des multinationaux. Donc on peut faire venir de l'argent, mais on peut faire des business en Chine, sur le marché chinois, mais vous pouvez faire tout ce qui est illégal dans les pays occidentaux, mais vous pouvez le faire en Chine. Sauf que, du moment où vous ne parlez ni de la démocratie, ni de la liberté, ni de l'état de droit. Et donc, la stratégie de Deng Xiaoping a connu un franc succès. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils ont pris à l'Occident la haute technologie, les nouvelles technologies, l'argent, l'investissement, pour faire de la Chine un pays de George Orwell, 1984. C'est un empire de haute technologie. Et donc aujourd'hui, l'Occident commence à se réveiller, commence à comprendre, commence à prendre des vigilances. En quoi, si on n'exporte pas vers la Chine la démocratie, c'est la Chine qui va exporter vers l'Occident la démocratie et aussi la vidéosurveillance de 1984.
À travers notamment ses infrastructures. Il était il y a une semaine à Paris dans le cadre d'une tournée européenne pour promouvoir son projet de nouvelle route de la soie, vaste programme d'investissement, le président Xi Jinping.
Nous voulons renforcer les synergies entre nos stratégies de développement respectives afin d'améliorer la coopération dans le domaine des infrastructures, des ports, de la logistique et du transport maritime afin de construire une série de projets concrets le long de la route de la soie.
À vous entendre, Liao Liu, depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping, la situation ne s'est pas améliorée. Cette ouverture au monde n'a pas profité du tout à la Chine.
Récemment, j'ai vu un film, la planète en balade. Donc c'est une fiction qui raconte que 5 milliards d'années-lumière, il y a encore la planète de la Terre va fuir le Soleil, donc il ne reste plus sur la planète que deux pays, la Russie et la Chine. Et c'est la Chine qui devient le maître de destin du destin de la planète, de l'humanité, parce que la Chine maîtrise la meilleure technologie pour permettre à la planète de fuir le soleil qui déclenche le nouveau risque pour chercher à trouver le nouvel énergie. Et ce film, dans ce film-là, on a vu qu'il y a encore le commissariat, il y a encore la prison. Donc c'est le même système, c'est le système de la dictature chinoise. Donc ils souhaitent que, même en projetant vers 5 milliards de l'année-lumière, on gardera toujours le système actuel. Et à partir du moment où on maîtrise la haute technologie, et quel que soit volé ou piraté, à partir du moment où on dispose de cette technologie, on peut combattre la démocratie, on peut faire reculer la démocratie, on peut dominer le monde, dominer la planète jusqu'à la fin du temps. Et dans ce film, et M. Xi Jinping, il a visionné 5 fois consécutifs. Il a écrit une lettre au ministère de la Propagande pour diffuser le plus largement ce film. Donc, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord pour qu'il y a 5 milliards d'années-lumière, il peut subsister encore sur la planète, le commissariat, la prison.
Aujourd'hui, vous vivez en Allemagne, Liao Yibou, vous avez reconstruit une famille, il nous reste quelques secondes. En Chine, vous n'y retournerez plus?
Je peux retourner à Sichuan, mon pays natal. Et je souhaite que la Chine se divise en plusieurs dizaines de pays. Mon exil, et cela va me rendre moins fatigant, mon exil. Et il n'y aura plus de barrières linguistiques. Et j'aimerais bien que ces dizaines de pays fédéraux se mettent en concurrence, en libre concurrence. Et la province du Sichuan va choisir sa propre personnalité, que ce soit un cuisinier ou un lambda, pour devenir le président de l'État de Sichuan.
Merci beaucoup à vous, Liao Yibou, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour votre traduction, Roger Wei. Merci à Marie Holzmann pour avoir assisté aussi de l'autre côté du français au chinois. Rendez-vous demain pour un Vernon Subutex en série La nature à l'œuvre de Peter Wohlleben, l'auteur de La vie secrète des arbres. D'ici là, merci beaucoup à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc. À la réalisation aujourd'hui, c'était Alexandra Candilongué avec Milena Ligue et à la technique Ludovic Augier. À suivre, Les Pieds sur Terre. Très bel après-midi sur France Culture.